plaisir, l'honneur et la joie d'introduire donc un séminaire qui porte entièrement sur les ouvrages vont passer, hein, vont circuler, sur le poil. Habituellement, quand je vous présente le début du séminaire, j'essaye de trouver les points communs ou les problématiques communes. Ici, c'est trop facile parce que voilà, il y a une homogénéité évidente. Au fond, les trois ouvrages qui sont là s'intéressent aux usages sociaux du poil, des poils. On va y revenir. Donc la tonalité, enfin c'est une tonalité scientifique qui m'a perturbée dans ces trois livres. J'ai trouvé que dans les trois... Alors je fais ça parce que je dis à Christian Bromberger qui est là, je voudrais moi faire un papier sur poil, voile et, voilà, et le sens du poil, mais uniquement sur un objet particulier. Une opposition particulière, c'est l'opposition homme-femme, enfin le poil comme signifiant de ça. Et donc, sous son contrôle, j'ai une espèce d'insatisfaction et d'inquiétude, en fait, par rapport aux trois ouvrages, parce que j'ai trouvé que les trois ouvrages étaient quand même une petite apologie du renoncement. Alors, pas un renoncement au plaisir de l'objet, pas du tout. Vraiment, tous s'amusent beaucoup avec l'objet poil. Mais une forme de renoncement au plaisir d'en tirer des enseignements un peu généraux. En raison des exceptions, chaque fois qu'il propose quand même l'idée que le poil, la barbe par exemple masculine, a un signifiant particulier, la puissance par exemple, vous allez avoir dans l'ouvrage très vite, juste après, une phrase disant « mais bon, en même temps, il y a des exceptions ». Première chose qui permet de casser l'accès à une pensée généralisante, il y a des exceptions. Et c'est souvent intéressant, ces exceptions, sauf que je pense que quand on essaye de comprendre, de généraliser, il faut s'intéresser aux exceptions. C'est-à-dire, à ce moment-là, commencer un travail sur les exceptions et de voir si ces exceptions sont effectivement de vraies exceptions. Alors, entre autres, ou si ce n'est pas des espèces d'obstacles qu'on se met pour se casser les jambes. Alors, je vous donne un exemple, c'est l'opposition glabre féminin et barbe velue, parce que ce n'est pas que la barbe masculin. Classique, vous avez l'exception, mais il y a des femmes à barbe. Bon. Or, on est complètement décalé, parce que le signifiant poil masculin, puis sexuel, et glabre féminin, homosexuel, eunuque et je ne sais pas quoi, il ne peut pas être cette généralisation qu'on peut faire, elle n'est pas cassée par les femmes à barbe, puisque là c'est un phénomène purement biologique, ça n'a rien à voir avec les signifiants de société, vous voyez, là c'est typiquement une fausse exception, mais il y en a d'autres comme ça. Et il y a une autre raison qui fait qu'il y a une espèce de prudence qui m'inquiète pour moi à monter en généralité, c'est évidemment le constructivisme. Alors moi je suis tout à fait, toutes nos sciences sociales doivent être constructivistes. Constructiviste, ça veut dire, on ne peut pas généraliser parce que ça dépend des contextes géographiques, culturels, et ça dépend de l'histoire, ça bouge dans l'histoire. Bonjour. Bon, tout à fait d'accord. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que notre constructivisme, que je soutiens, l'Anticus, jusqu'au bûcher exclusivement, que notre constructivisme parfois peut jouer des mauvais tours, des méchants tours. Parce que je pense quand même qu'il y a quelques invariants, par exemple la domination sociale me paraît être un invariant. Et je fais l'hypothèse, sous contrôle, mais vous me direz d'ailleurs, si la domination masculine dans le monde est un invariant. Question. J'aurais dû penser à Françoise Héritier-Auger quand elle faisait son séminaire il y a bien longtemps. Bon, donc s'il y a quelques invariants, il y a peut-être aussi, quand on s'intéresse au poil comme signifiant, entre autres, hein, ça signifie nature, culture, mais ça signifie aussi homme-femme. S'il y a des invariants de ce type, domination masculine, il y a peut-être des invariants dans le signifiant poil dans l'ensemble des sociétés. En tout cas, c'est une hypothèse que je fais avec la trouille. Ça sera au début du papier, si je fais papier. Non, je ferai papier dessus. Voilà. Donc, c'est cette tonalité-là. Je ne vais pas le développer, mais pour mon papier, j'ai pris en note, chaque fois que j'avais une tentative de faire, dans votre livre aussi je l'ai fait, hein, une tentative de tirer quelques enseignements généraux, et juste après, vous avez, ah oui, mais les ermites sont des velu. Donc, on ne peut pas dire que la barbe bien taillée, ça signifie, alors bon, peu importe, hein, parce que là, je ne sais pas, ou bien la barbe, effectivement, les femmes barbues, etc. Bon. Donc, il y a à chaque fois soit l'exception, soit la réaffirmation du principe que soyons constructivistes. Tout ça dépend de l'histoire, du contexte culturel, etc. Voilà. Donc, ma tentative, ça va être d'essayer de défendre l'idée que le poil, certains poils, alors moi je ne mettrai pas tous les poils dans le même sac. C'est ça mon problème dans ce que j'ai lu aussi. Je pense qu'il ne faut pas mettre tous les poils dans le même sac, d'une part, parce que ce n'est pas le poil qui est insignifiant d'un signifié unique, évidemment, ça vous le dites très bien. Mais si on prend un certain type de poil, et d'autre part, si on réinsère ce poil avec un autre poil qui peut lui donner sa signification, c'est-à-dire si on remet le poil en question dans une structure d'objets, dans un ensemble d'objets, à ce moment-là, on peut trouver cette chose qui fait peur aujourd'hui, la structure de ce langage de signifiant qui permet d'aboutir à des signifiés relativement élaborés. Ce n'est pas le simple truc, le barbu, c'est l'homme, et le glabre, c'est la femme. On peut arriver à des choses plus complexes. En résumé, pour que Marika éventuellement me réponde, pour résumer, vous avez compris que mon hypothèse, ma tentative, que je vais essayer d'écrire, ça va être de remettre, donc, non pas le poil en général, mais certains types de poils, dans un ensemble de poils particuliers, pas tous. Par exemple, poil pubien féminin et au hasard, enfin ce sera ça, poil pubien féminin et barbe masculine, de le conjuguer à un autre type de poil et de le mettre donc dans un ensemble d'objets qui me paraissent accolés ensemble, comme dans un verbe, comme dans une phrase. C'est les mots qui sont mis ensemble qui font du sens. Et bien le même, c'est certains types de mots mis ensemble et pas d'autres, pas tous les poils, qui vont avoir du sens et nous permettre d'arriver à les signifier relativement complexes. Et donc, l'idée, c'est, j'y tiens beaucoup moi, à ça, c'est de ne pas renoncer à, au fond, moi j'ai été éduquée là-dedans, à l'idée qu'on peut trouver des structures. Alors, j'avais tellement peur de vous dire ça ce matin que je suis retournée voir l'introduction d'un livre qu'on a présenté ici il y a 10 ans, je pense, au moins 10 ans, de Margaretha Xantakou et Françoise Irité, qui s'appelait Corps et Affects. Et en me disant, mais est-ce que les anthropologues acceptent l'idée de la structure, qui ne soit pas simplement les structures en termes de la filiation, par exemple, mais d'autres structures signifiantes. Évidemment, le texte, l'introduction, voilà, il n'y a aucun doute, quoi. On peut chercher les structures. Alors, je ne sais pas si elles disent qu'elles sont absolument... totalement universalisable, mais enfin, voilà, ça a du sens de le faire. Bon, voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais rajouter peut-être une chose pour être très concrète, c'est que je vous ai dit que parfois les exceptions sont de fausses exceptions. Voilà, j'ai pris l'exemple de la femme à barbe. Mais je dirais quelque chose de plus, c'est que ça n'est pas parce que... la barbe comme signifiant, dans 85% des cas, veut dire la puissance masculine. Ce n'est pas parce qu'il y a une exception, il y a 15% des cas qui échappent à ça, qu'on ne peut pas dire avec insistance qu'il y a un signifiant puissant de la puissance masculine à travers la barbe. Voilà. Moi, je pense que ça a du sens. Alors, d'autant plus qu'à un moment donné, dans votre livre, vous parlez à propos de l'épilation aujourd'hui, donc, je ne savais pas grand-chose. Voilà, il y a un livre entier sur le fait qu'aujourd'hui les gens s'épilent, notamment les poils pubiens, ce que je ne savais pas.
Oui.
Vous vous autorisez à parler de tendances lourdes. Bon, qu'on n'explique pas, mais moi je n'ai absolument pas compris pourquoi les gens s'épilent aujourd'hui, ce n'est pas clair du tout pour moi. Et dans ce livre-là, c'est un quatrième livre, hein. Non, c'est ça, oui. On ne comprend pas du tout pourquoi les gens s'épilent. Moi je n'ai pas compris. Mais en tout cas, si on peut s'autoriser à parler de tendances lourdes aujourd'hui dans une pratique sociale, on peut aussi penser à parler de tendances lourdes dans une interprétation d'une pratique sociale dominante, même s'il y a des exceptions. Voilà. Donc vous voyez bien où j'essaye d'en venir, mais je m'arrête là. Si vous voulez savoir quel type de langage signifiant structuré j'essaye de trouver, bah, j'aurai peut-être le temps de le faire à la fin, mais sinon non, c'est pas grave, et puis on en reparlera. Vous me direz si j'arrive à faire le papier. Voilà, et dernière chose, si ce que je vous ai dit ne vous apparaît pas clair, ou si voilà, vous avez des doutes, je me suis aperçue que j'avais fait un papier, il n'y a pas très longtemps, dans la revue Sensibilité, donc on a invité les jeunes gens de Sensibilité ici, hein, la revue Sensibilité, qui est une revue de jeunes historiens tout à fait talentueux, et il m'avait demandé sur comment j'écris, ça, c'est une rubrique, comment ça s'écrit. Et j'ai fait mon papier sur comment j'écris. Et je me suis aperçue que je disais que bah, toute mon existence scientifique avait cherché, par une écoute flottante du réel, à sortir une structure du réel. Voilà. C'est-à-dire dire qu'il y a des choses qui sont récurrentes, alors qu'il y a des exceptions, qu'il y a des trous dans les choses que vous trouvez. Oui, et quand vous avez des fortes récurrences statistiques, bah, vous avez ce que vous appelez une tendance lourde. Elle est bien intéressante à mettre en valeur. Voilà. Bon, je peux me tromper, hein. Vous avez toutes mes hésitations et tout. Alors, on va peut-être faire la présentation dans l'ordre. C'est vous qui commencez. Ouais, c'était vous, c'est ça?
Oui.
Sur l'ouvrage de Marie-France Ozinski et Joël Cornette.
Voilà.
Ça vous va?
Oui, alors, il y a juste deux ou trois petites choses par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, il n'y a pas une apologie du renoncement dans mon livre, je crois, et en tout cas dans le mien. Mais j'ai peur que votre façon de voir les choses consiste un peu en du militantisme. Ce que vous appelez constructivisme est proche du militantisme, c'est-à-dire qu'il faudrait reconnaître un certain nombre d'invariants dans la domination masculine. Alors, c'est vrai, sauf dans un coin du Tibet, où ça n'est pas vrai. Et alors, il y a eu un livre écrit là-dessus par, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, excusez-moi, qui montre, et il y a d'ailleurs eu un film aussi là-dessus, qui était assez intéressant, qui montrait une société dans l'est du Népal ou bien dans l'ouest de la Chine, où il y avait la domination féminine et où, en définitive, les hommes ne faisaient à peu près rien.
C'est très contesté, hein. C'est sur l'INA.
Bon,
oui, voilà.
C'est un collègue,
oui.
Là, c'est des petits problèmes.
Bah, oui, mais quand on voit le film réalisé sur... en effet, on voit... Oui, vous avez... Merci de me rappeler la référence, c'est des nappes.
François Berthier.
On a parlé
Oui, parce que c'est parti du laboratoire, c'est plus problématique que ça, comme d'habitude.
Et ça s'appelle
que là, c'est intéressant. Enfin,
oui.
Nicole Cloud, Mathieu, on avait aussi évidemment préféré, puisqu'elle travaille sur la parenté des sociétés matrilinéaires.
La tendance lourde en matière d'épilation, c'est quand même une tendance à la désanimalisation.
Oui.
Une tendance à l'hygiénisme, bref, à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, et qui fait que aussi bien les poils axillaires que les poils corporels, donc les poils axillaires, c'est-à-dire les poils sous les aisselles, que les poils corporels, ont aujourd'hui mauvaise presse dans la mesure où tout cela connote l'animalité, le sale, etc. Et c'est vrai que nous avons cette tendance à l'hygiéniste. Alors j'en viens à l'histoire du poil de Marie-France, donc édité par Marie-France Ozepi et par Joël Cornette, et qui est paru en 2011. Alors contrairement à ce qu'indique le titre du livre, qui s'appelle Histoire du poil, j'ai ici la première édition, ce livre n'est pas une histoire du poil. Tâche impossible, nous dit à juste titre l'éditrice de ce volume. L'ouvrage, qui est abondamment illustré, comporte trois parties. De Samson à la femme à barbe, le poil est la norme. Deuxième partie, de Babylone au chemin des dames, poil, corps et politique. Et troisième partie, de Darwin à Freud, le poil au carrefour des sciences humaines. chacune de ces parties regroupe un certain nombre de contributions. Dans la première se trouve une analyse du poil dans la Bible, puis en islam, une analyse de la tonsure des clercs et de la barbe des moines dans le christianisme, une étude sur le poil à Byzance, une analyse du poil monstrueux avec ses femmes à barbe et ses hommes chiens. Dans la deuxième partie, les auteurs s'interrogent sur le pouvoir du poil de Sumer à Babylone, sur les perruques au XVIIe et au XVIIIe siècle, sur l'affaire de la natte en Chine, un enjeu politique, sur la rhétorique pileuse en Turquie aujourd'hui, enfin sur les poilus, des combattants à la prestigieuse légende. Dans la troisième partie, les auteurs traquent les significations du poil à travers les perspectives de l'anthropologie et de la psychanalyse. Ces différentes parties sont encadrées par des réflexions bienvenues des éditeurs qui font remarquer qu'il n'y a pas de signification univoque du poil. Le cheveu coupé peut ainsi signifier la soumission, mais aussi la déchéance, l'exclusion, l'opprobre. Je me permettrai, je suis iranologue, dans la suite de cette intervention, d'indiquer à partir des événements récents en Iran comment une même pratique en matière de pilosité peut revêtir deux significations, voire trois significations différentes selon les contextes. Et le poil sur lequel on peut agir, nous disent les auteurs, établit un langage social suivant son apparence. Revenons sous ces différents aspects, donc les fonctions distinctives du poil et la relativité des significations, sur les deux premières parties. Et sur l'introduction. Dans l'introduction, Marie-France Osépy remarque que, ainsi que selon les époques et les civilisations, la barbe sera interprétée comme le fait de l'image de Dieu ou comme celui de la sauvagerie. Dans la Bible, Maggie Halpern remarque que raser la barbe et raser les cheveux sont ressentis comme une humiliation dans la Bible et que la chevelure abondante portée par Samson et Absalom est le trait des guerriers, la rousseur d'Ésaü et de David, l'apanage d'êtres violents. Elle note aussi d'ailleurs que les rites de deuil consistent à défaire sa chevelure et à déchirer ses vêtements. Le développement sur le poil et l'islam dû à Anne-Marie Moulin met en évidence le contraste entre les sociétés chrétiennes et les pays musulmans. Celui qui ne s'épile pas le pubis et les aisselles au-delà de 40 jours n'est pas musulman, dit un hadith, donc un fait rapporté du prophète. Il faut aussi marquer sa différence avec les juifs, d'où l'interdiction des touffes de cheveux pendant le long des oreilles, donc l'interdiction des papillons, mais il faut aussi se démarquer des mages persans qui portaient des moustaches spiralées. Cela vaut pour les deux sexes, sperme et sang, transitant par le pubis. L'épilation, y compris du visage et la chevelure, sont synonymes de séduction féminine, l'épilation féminine du sexe proposant un sexe prêt à l'emploi. La division des sexes repose donc sur un ensemble de différences pileuses, mais l'un et l'autre s'opposent au débraillé capillaire des derviches. C'est en effet une catégorie sur laquelle on aura à revenir, celle des ermites ou des fous de Dieu, avec leur comportement capillaire particulier. Les sociétés chrétiennes, étudiées par Marie-France Osépy, ont suivi les prescriptions de saint Paul. L'homme doit couper ses cheveux et la femme les laisser croître et les couvrir lorsqu'elle prie. À l'ouest comme à l'est de l'Empire romain, les moines des premiers siècles étaient barbus et chevelus. Mais dès le 7e siècle, les moines d'Occident ont coupé leurs cheveux et rasé leur barbe. En Orient, en revanche, les moines sont restés fidèles à la barbe des débuts. Ce fut une des raisons du schisme de 1054 entre orthodoxes et chrétiens romains. Le cardinal Imbert déclarait « De plus, laissant pousser barbe et cheveux, il refuse la communion à ceux qui se coupent les cheveux et qui, selon les prescriptions de l'Église romaine, se rasent la barbe. » Donc il y a véritablement là un conflit entre la chrétienté de l'Est et de l'Ouest. Après le triomphe de l'orthodoxie, le Christ est représenté avec la barbe, et à partir du XIIIe siècle, règne un véritable diktat iconographique de l'Orient en Orient. Georges Sidéris fait remarquer qu'à Byzance, n'existent pas seulement deux genres, mais trois. Les hommes, les femmes et les eunuques. Imberbe est doté d'une chevelure fournie pouvant être associée aux anges. Dans le numéro 19 de la revue L'Apologie, donc, qui traite de la pilosité, précisément, il y a Corinne Fortier qui revient sur ce thème du troisième sexe, et à partir d'exemples d'ailleurs qui ne sont pas ceux donnés par Sidéris, mais je pense que là il pourrait y avoir un développement intéressant. Alors si ces diverses analyses du poil selon les sociétés nous disent quelles furent ici et là les normes, Jacques Gélis au contraire examine les cas où le poil brouille les frontières entre masculin et féminin, entre l'homme et la bête, bref, les cas qui révèlent à contrario la norme. Tantôt, l'abondance de poils a une connotation érotique, tantôt, elle symbolise un excès de force physique, tantôt, elle est interprétée comme le résultat d'une union de l'homme et de l'animal, tantôt, elle est perçue comme un reliquat attardé, le chaînon manquant darwinien. Donc ça, c'est la contribution de Jacques Gélis. La manière de traiter ces créatures, donc entre humanité et animalité, est un bon indice de la sensibilité éprouvée à leur égard. À la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, le musée des prodiges humains a ainsi remplacé la galerie des monstres. Deuxième partie, le poil est aussi signe de pouvoir, ce que montre Francis Johannes dans son étude qui prend en compte la pilosité de Sumer à Babylone. Si le desservant de la statue divine, depuis le troisième millénaire jusqu'au premier millénaire avant Jésus-Christ, ne se conçoit que rasé et dépourvu de toute chevelure, les orangs, en revanche, qu'ils soient hommes ou femmes, sont chevelus. La barbe est pour les hommes marque de noblesse, et pour le roi, elle est calamistrée, c'est-à-dire formée d'un grand nombre de bouclettes. Le poil, ici comme ailleurs, est aussi l'objet de physiognomonies qui révèlent la personnalité et le destin des individus. Je dois dire que dans ce numéro 9 de l'Apologie, il y a une analyse, beaucoup d'analyses des sourcils, notamment de ce que nous disent les sourcils, sur les intentions de communication et sur les réactions de la communication. Sautant plusieurs siècles, Joël Cornette nous parle de la perruque. L'origine de cette mode de la perruque à l'âge classique est due à Louis XIV, qui perdit une partie de ses cheveux et devint presque chauve à 19 ans. S'ensuivit un processus d'emperruquement des courtisans par copie du roi. La perruque se répandit, mais il en exista plusieurs types, plus ou moins, donc des perruques plus ou moins volumineuses et extravagantes, en fonction du statut des individus. Et Molière ne manque pas, dans ses pièces, de se moquer de ces accoutrements particuliers. Les femmes adaptèrent aussi la perruque. Marie-Antoinette poussant à la fin du XVIIIe siècle l'extravagance à son comble, alors que les pauvres faisaient commerce de leurs cheveux. On comptait en 1789 972 perruquiers à Paris. Et un exemple particulièrement frappant du lien entre poils et politique nous est fourni par la natte chinoise, qui était imposée par la dynastie Qing, Q-I-N-G, donc la dynastie Manchu, qui régna de la moitié du XVIIe siècle à l'avènement de la République en 1911. Ce cas est présenté par Nora Wang, et la population masculine était astreinte à un rasage régulier de toute la partie antérieure du crâne, signe de soumission, et au port d'une longue natte derrière. Cette pratique était contraire aux usages de divers groupes qui se trouvaient dans l'Empire, qu'ils fussent musulmans, bouddhistes ou taoïstes, et le refus de l'observance de la norme Qing entraînait une répression féroce. Quiconque coupe ses cheveux, rase sa barbe ou ses joues n'a pas renoncé aux habitudes diaboliques qu'on lui tranche la tête sans pitié. Voilà ce qu'on pouvait lire d'après Nora Wang dans les textes Qing. Deux révoltes, entre autres, contre la natte auraient fait 500 à 200 000 morts pour l'une, 100 à 800 000 morts pour l'autre. Dès l'avènement de la République, en 1911, donc, l'abolition de l'obligation du port de la natte fut proclamée, puisque le cheveu est, pour les Chinois, symbole de masculinité. Dans son exploration de la trichologie turque, trichologie parce que en grec, le mot trix signifie à la fois les poils et les cheveux. D'ailleurs, c'est ce qu'on a aussi en persan, où le mot mou signifie à la fois les poils corporels et la chevelure. Donc, dans son exploration de la... Vous voyez d'ailleurs qu'aussi on a la même assimilation en anglais avec hair, qui signifie à la fois le poil corporel et en même temps la chevelure. Donc, d'où l'expression trichologie, ce qui fait que d'ailleurs, moi je distingue des trichophiles et des trichophobes, donc des gens qui aiment les poils et d'autres qui les détestent. Alors, ceux qui aiment les poils en particulier, qui sont très minoritaires, sont les Ainu du nord de la péninsule japonaise, à Hokkaido, qui, eux, valorisent au contraire le poil, et ce qui fait d'ailleurs que les femmes se faisaient des moustaches artificielles en répandant sur leurs lèvres entaillées, sur leurs lèvres supérieures entaillées, comment s'appelle ce dont nous nous servons pour assaisonner, qui est noir. Donc, se mettait ce liquide noir, oui, pas
sur. Vinaigre.
Non.
De
l'encre
de sèche.
L'encre de sèche, oui. De l'encre de sèche, donc, sur la lèvre supérieure. Alors, donc, s'intéressant à la trichologie turque, Benoît Flich remarque d'abord que les poils doivent être rasés chez les hommes comme chez les femmes quand ils sont axillaires, donc ou pubiens, qu'ils doivent être cachés quand ils couvrent la tête et sont féminins, qu'ils sont valorisés lorsqu'ils sont faciaux et masculins. Donc c'est un petit peu comme dans les sociétés musulmanes sur le plan, si vous voulez, des principes, des normes. Le poil thoracique, ajoute-t-il, place l'homme du côté du sacré, alors qu'il rejette la femme du côté de l'animalité. La moustache et la barbe renseignent sur l'appartenance politique des hommes. La moustache courte, qui ne déborde pas sur la région labiale, donc est signe de conservatisme. La moustache prolongée par des crocs, Gengis Hamid, est portée par les loups gris nostalgiques du panturquisme. Quant à la moustache à la Staline, qui déborde sur la lèvre supérieure, elle est arborée par les communistes, les socialistes et la minorité alévite qui se trouve dans l'est de la Turquie, mais aussi par les Kurdes. La typologie des barbes faire ressortir le même clivage. Dans cet univers poilu, le glabre détonne. Il est soit féminin, soit il signifie la modernité. Benoît Flich remarque qu'un même trépileux, le glabre peut avoir ainsi deux significations, ainsi la féminité, et par ailleurs aussi, dans un certain nombre de cas, la soumission. Le chemin suivi par Emmanuel Cronier est différent. Elle ne part pas des achevements pompileux propres à chaque catégorie sociale ou à un groupe politique, mais d'un terme générique se référant aux poils, les poilus, qui ont été popularisés par la guerre de 1914 et dont le nom dépasse largement la seule référence pileuse, puisque Emmanuel Cronier parle de la grande fortune d'un terme argotique. C'est vrai que poilu renvoie à un comportement rustique et à la vaillance héroïque. Ce poilu, combattant du front et non embusqué à l'arrière, et donc censé sûr de l'emporter face à des boches assimilées à des animaux. Sur cette base, une légende, la légende du poilu, a été créée. Abordant dans la troisième partie la manière dont l'anthropologie a traité du poil, Anne-Frédérique Muller-Delouis distingue trois approches. Le poil et l'évolution, thème qui a dominé des années 1870 aux années 1920. À vrai dire, il a fallu beaucoup d'imagination pour faire coïncider les configurations pileuses et l'évolution menant au dernier échelon vers l'homme blanc. Puisque, en définitive, vous savez, quand on a découvert l'Amérique, les premiers colonisateurs étaient persuadés que les Indiens étaient velus dans la mesure où le fait d'être velu manifestait un lien avec l'animalité. Et en définitive, ils durent s'en rendre à l'évidence, à savoir que les Indiens n'étaient pas velus du tout, bien au contraire, et qu'au contraire, le moindre poil leur faisait horreur. Donc il a fallu trouver, dans la perspective évolutionniste, quelque chose qui montrait que les Européens étaient véritablement en haut de l'échelle de l'évolution, et donc le poil a été présenté comme un symbole et un symptôme de la virilité, donc qui montrait que cette évolution vers l'homme blanc était quelque chose d'inéluctable. Alors à partir de 1920, ce qui est surtout étudié, c'est la pilosité mythique, le symbolisme capillaire, qui ont été traités par tous les grands noms de l'anthropologie, par Boas, par Malinowski, par Leach. Les anthropologues ont, par exemple, analysé le complexe de Dalida, les poils pubiens des femmes trop développés, qui amènent donc à une domination des femmes et qui affaiblissent les hommes. L'interprétation de Leach, s'inspirant des travaux de Berg, posait que les cheveux longs expriment une sexualité débridée, les cheveux courts une sexualité restreinte, les cheveux entièrement rasés, le célibat. Plusieurs chercheurs, donc là je ne détaille pas l'approche de Leach, plusieurs chercheurs, mais je pense à Holpike, à Hirschman, à Obeyé-Sekere, ont montré que l'anthropologie ne fournit pas de clés universellement valides pour l'interprétation des poils et des cheveux. Enfin, à partir des années 1970, ce qui intéresse surtout les anthropologues, ce sont les rapports entre le poil, le genre et le pouvoir, une thématique donc qui est fréquente en matière d'études de la pilosité depuis les années 1970. L'auteur s'interroge en particulier sur l'épilation. Donc là, cela renvoie à quelque chose qui était tout à l'heure dit par Dominique Mémy. Est-ce que cette épilation, donc c'est ainsi que la présente Anne-Frédérique Muller-Delouis, renforce-t-elle le pouvoir sexuel et social des femmes, ou est-ce la non-épilation qui défie les codes imposés par une société dominée par l'homme? Cette partie s'achève par un développement assez problématique sur le poil freudien dû à Patrick Avram. Je dois dire que cette troisième partie m'a posé plus de problèmes que les deux premières. La toison pubienne a, selon Freud, pour fonction de masquer la castration symbolique dont sont victimes les femmes, tout comme le tissage et le tressage sur le plan technique, tout comme la pudeur sur le plan psychologique, ayant pour origine donc la pudeur, le souhait de masquer la défectuosité de l'organe génital. Des notations sur la barbe de Moïse, sur Méduse. Alors Méduse est un thème qui a beaucoup intéressé aussi bien Jean-Pierre Vernant en anthropologie grecque que Jean Clair ou bien Corinne Fortier dans le numéro 9 de l'Apologie donc, qui est paru en 2022 dont je vous parlais. Et sur l'origine du monde donc, de Courbet, qui a été acquis par Jacques Lacan en 1955, l'origine du monde de Courbet, tout cela, donc, il y a des notations sur l'origine du monde de Courbet dans les conclusions, dans les écrits de Patrick Avram, mais à vrai dire, je préfère ce qu'a écrit Corinne Fortier là-dessus, dans le numéro 9 de l'Apologie. Alors, il y a une conclusion par Joël Cornette qui rappelle que le poil est un langage social, que l'abondance de poil exprime la virilité et que le cheveu coupé indique la soumission, mais aussi la déchéance, l'opprobre. Mais peut aussi être une marque, ce cheveu coupé, de pureté. Les cheveux et les poils sont aussi révélateurs et... Joël Cornette achève sa conclusion sur ce thème. Révélateur, mémoire du passé et d'un passé obscur, puisque les cheveux portent, il fait un long développement sur Agnès Sorel, portent donc la marque, si vous voulez, de toute une série de pratiques. Et l'exhumation des restes d'Agnès Sorel et l'analyse de ses cheveux qui suivit nous montre à quel point les cheveux sont aussi porteurs de mémoire. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cet ouvrage.
Est-ce que vous aviez des considérations un peu plus générales? Vous avez dit que c'est pas vraiment un ouvrage d'historien.
Non.
Pourquoi vous vouliez dire ça? Parce que d'abord, les participants sont mélangés, puisqu'il y a, un psychanalyste, il y a... un anthropologue, un ethnologue.
Oui.
Benoît Fiche. C'est ça que vous vouliez dire, c'est du point de vue des appartenances disciplinaires, c'est plus mélangé.
C'est plus mélangé, et donc, à vrai dire, c'est un thème, histoire du poil, ça n'est pas une histoire du poil, c'est en effet plus mélangé. Il y a des contributions aussi bien d'historiens, mais d'historiens qui ont véritablement une veine anthropologique. Par ailleurs, de façon plus générale, sur le pouvoir, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, on saute de Sumer en perruque de Louis XIV. Il s'est passé des choses entre-temps. C'est dommage qu'il n'y ait rien sur Rome, sur la Grèce, par exemple, où il y avait beaucoup de choses à dire aussi sur l'apparence des empereurs.
Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si d'autres articles sont sortis récemment, s'efforçant de faire une histoire du poil, même limitée à une période particulière, hein, ça je ne sais pas, peut-être que vous nous direz, qui fasse vraiment ce que le livre annonce, à savoir de prendre un terrain particulier, d'en faire le développer chronologique.
Écoutez,
du point de vue du poil.
Il y a le livre de Bernard Lançon, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui porte sur poil et pouvoir. Avait déjà écrit des articles sur la Grèce et Rome et sur le Moyen-Âge et les médiévistes. Mais c'est un médiéviste qui s'intéresse beaucoup à l'Antiquité aussi. Enfin, peut-être qu'il est plutôt antiquiste, excusez-moi.
Oui, bon, enfin, en tout cas, il a essayé
oui.
de garder le fil chronologique.
Voilà, oui.
D'accord. Okay. Bon, est-ce que vous avez des questions plutôt factuelles à poser au lecteur, puisque c'est pas au sauteur qu'on peut le faire.
Il y avait peut-être quelque chose que je voulais dire sur le cheveu coupé en Iran aujourd'hui.
Oui. Oui, vous aviez annoncé ça.
J'avais annoncé ça, oui. Dans la mesure où, quand on prend le cheveu coupé dans la tradition iranienne, ça a deux significations. C'est soit le deuil, alors par exemple dans le livre des rois, je ne sais pas le charnommé, de Firdousi, quand Farangis apprend la mort de son combattant, de son époux combattant qui est Siavouche, elle se coupe les cheveux. Elle se coupe les cheveux en signe de deuil. C'est quelque chose, si vous voulez, donc, qui est attesté aussi bien par les usages décrits par les ethnologues que par les historiens. La deuxième signification, c'est que quand une femme... Vous savez, les femmes en Iran se laissent pousser les cheveux. Donc, ne détaillent pas, sauf éventuellement quand elles sont très âgées, mais... Et donc, une femme dont on coupe la queue de cheval, gizboride, donc à ce moment-là, une femme, c'est une femme de mauvaise vie, une femme qui a péché, donc qui a péché, qui a eu des relations adultères, etc. etc. Or là, au contraire, bon, le fait de se couper les cheveux, c'est précisément une révolte contre l'État iranien tel qu'il est. Donc, vous voyez comment une même pratique capillaire peut avoir des significations très différentes. Soit le deuil, soit au contraire l'adultère, soit au contraire la révolte. Et alors, ça m'a fait penser aussi à quelque chose, puisque ça vous intéresse, sur le voile. Ben, je me rappelle en 1979, excusez-moi, je ne suis pas de la première jeunesse, des femmes qui étaient des laïques portaient néanmoins le voile. Comme opposition précisément au régime du Shah Nishan Aryamer, c'est-à-dire de Mohamed Reza Pahlavi. Et puis, évidemment, aujourd'hui, le voile change de signification. Se dévoiler, c'est montrer, si vous voulez, son hostilité à ce qui est imposé. Or, au contraire, si vous voulez, s'opposer à la norme, c'était pour porter le voile en 1979, lors de la révolution islamique. Alors, toutes les femmes laïques ne le faisaient pas, mais un certain nombre le faisaient. Et c'était assez intéressant de voir comment, si vous voulez, alors que c'était à l'opposé de leurs convictions, ces femmes portaient le voile comme emblème politique à ce moment-là. Voilà. Bon.
Ok. Bon, merci beaucoup. On va passer la parole à l'ordre. À Victor, pour la présentation du show. À moins que, pardon, que vous ayez des questions, des demandes. Oui, allez-y.
Juste si vous pouvez présenter les gens pour savoir qui sont, en fait, c'est juste que les plateaux du cellulaire, présenter les gens et ce qu'ils font.
Ah oui, le lecteur. Alors, oui, voilà. Là, la personne qui vient de parler est auteur, par ailleurs, du deuxième ouvrage.
Okay.
Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas dit ça.
Comme... Oui.
Comme, voilà. Romans, c'est utile.
Oui, oui, bien sûr. Non, c'est vrai qu'elles ne sont pas habituées au séminaire. Les autres savent à peu près. Donc, voilà. Parce qu'on demande en général, je pense que Victor va le faire et Maï ouais. aussi, j'espère. On demande aux lecteurs d'expliquer pourquoi ils ont choisi cet ouvrage. Parce que quand on balance les ouvrages en début voilà, en disant qui veut se présenter, il y a des raisons pour lesquelles les gens s'emparent. Et donc, on demande aux lecteurs de dire pourquoi. Donc, lui, c'était évident. La raison de son intérêt pour cet objet était absolument évident, puisque ce sont tous des collègues. Alors, on va faire pareil pour Victor. Il y a une raison évidente pour laquelle il s'intéresse à cet objet. On va vous l'expliquer. Alors, donc, on présente le second. Je vais faire passer aussi dans ce sens. Donc, l'essence du poil, de l'anthropologie et de la pilosité. Alors, Victor, expliquez-nous.
Okay, avant de commencer, je voulais d'abord remercier les organisatrices de ce séminaire de me permettre d'y participer, plus spécifiquement à participer à cette séance qui promet d'être très intéressante. Et donc, avant de rentrer dans le livre, donc celui-ci, L'essence du poil, l'anthropologie de la pilosité de Christian Bomberger, je voudrais tout de même dire quelques mots à propos, pour présenter rapidement son auteur. Et donc, Christian Bomberger, vous êtes professeur émérite en anthropologie et ethnologie à l'Université d'Aix-Marseille, rattaché à l'IDEMEC, l'Institut d'ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative, ancien directeur de l'Institut français de recherche en Iran, et membre de l'Institut universitaire de France. Je suis allé regarder la liste de vos publications qu'on trouvait sur la page, sur votre page, sur le site de votre laboratoire. Il y avait plus de 260 publications à votre actif. Donc, difficile à résumer tout ça d'un coup, mais bon, j'ai quand même trouvé quelques domaines de spécialité qui sont les vôtres. C'est le football, anthropologie du football, des sociétés méditerranéennes, de l'Iran et donc de la pilosité. Et comme vous le racontez en introduction du livre dont il va être question très bientôt, ce dernier objet s'est imposé à vous, alors même que rien ne vous prédisposait à vous y intéresser. Pardon. Il s'est imposé à travers de multiples rencontres, ce qui fait l'objet du premier chapitre de l'ouvrage. Vous les trouviez sur chaque terrain que vous avez fait, apportant à chaque fois très nombreuses informations. Alors à l'inverse, et comme vous pouvez le voir, moi si je me suis intéressé au poil et par conséquent à votre livre, c'est parce que j'étais et je suis encore tout à fait disposé à m'y intéresser et j'ai fait de la barbe que je porte le sujet de ma thèse de sociologie. Et voilà, donc c'est pourquoi j'ai un intérêt tout particulier à ce livre, qui est donc paru en 2015 aux éditions Créafis et dont il faut dire que c'est une deuxième édition, revue et corrigée, d'un premier livre qui était paru en 2010 chez Bayard sous un autre titre, Tricologique. Une anthropologie des cheveux et des poils. Alors, vous dites aussi avoir passé plusieurs années à travailler sur ce sujet, et donc j'ai mis quelques publications qui précédaient cet ouvrage, où je me suis tenu que à celle en français. J'ai vu qu'il y en avait une autre en anglais et une en persan. Vraiment, je sais pas. Bref, je ne maîtrise pas les langues persan. Donc en 2005, un chapitre intitulé « Tricologique, le langage de la pilosité dans un corps pour soi », une entrée de pilosité dans le dictionnaire du corps dirigé par Gilles Butch et Bernard Andrieux, et enfin un article, des notes sur le dégoût pileux en 2011. Donc au fond, ce livre vient un peu parachever un chantier de long cours. Donc ce préambule étant fait, je voudrais maintenant vous dire comment je vais organiser mon propos. Je vais faire dans un premier temps une présentation générale du livre, de sa thèse, de sa méthode, puis je présenterai ses apports pour les sciences sociales du poil, et je me concentrerai enfin plus spécifiquement, puisque c'est l'objet de la séance, sur le chapitre qui est consacré au genre du poil. Donc, ce livre, comme son nom l'indique, et l'indique mieux en fait que le premier peut-être, a pour objectif principal de s'interroger sur les significations sociales et culturelles des poils et des manières de les façonner. Et pour élaborer cette ethnotricologie, c'est comme ça que vous l'appelez, vous êtes appuyé sur la méthode comparatiste, c'est-à-dire sur la comparaison des sociétés entre elles, selon les lieux et les époques, et donc en comparant leurs normes et leurs usages pileux. Il faut dire que cette comparaison, où se mêlent des matériaux de première main et de seconde main, est assez impressionnante, puisque certes, les terrains dont vous avez l'habitude, comme l'Iran, les différentes sociétés méditerranéennes sont bien représentées, mais vous n'oubliez aucun continent ni aucune époque, et je cite pêle-mêle, vous appuyez sur des cas aussi différents que les Borana d'Éthiopie et du Kenya, les Aïnous du Japon, les sociétés natives américaines du Nord comme du Centre, Creek, Cherokee, Aztèque, les Mérovingiens, les pays d'Europe centrale et de l'Est, l'Égypte antique, les Afro-Américains des années 60, et j'en passe encore. Bon, et votre propos à partir de tout ça, c'est de dire qu'il n'est pas possible d'établir, donc il va y avoir des accords là-dessus, pas possible d'établir un lexique universitaire des poils, c'est-à-dire d'identifier un sens unique à une manière déterminée de traiter certains poils. Je vous cite, on aurait tort de se précipiter vers des interprétations univoques, comme l'ont fait quelques psychanalystes et anthropologues, de céder à cette tentation rampante dans les sciences humaines, d'aboutir à des équations simples face à la désarmante complexité du réel. Tout système tricologique repose sur plusieurs dimensions qui interfèrent et interdisent de dégager des lois générales applicables à l'ensemble de l'humanité. Autrement dit, chaque société présente une configuration pileuse spécifique où chaque élément va prendre sens en relation avec l'ensemble des autres éléments, mais où rien n'oblige que ces relations-là soient les mêmes ailleurs ou à une autre époque. Toutefois, s'il n'est pas possible de trouver une loi trichologique universelle, vous remarquez tout de même que les axes de différenciation que les traitements pilovienne signifiaient sont un peu toujours les mêmes. Vous écrivez, la combinatoire des critères sur lesquels repose le façonnage de la pilosité varie d'une société et d'une époque à l'autre, mais sur la base, et c'est la loi générale, de critères constants. Ces critères constants, quels sont-ils? C'est ce qu'on s'efforce à dégager au fil des exemples et des réflexions plus pointues ce livre. Donc c'est là le but du livre, dégager les ressorts d'une sémantique trichologique, et vous identifiez donc quatre de ces critères ou axes de différenciation que je vais présenter rapidement. Donc le premier, donc le premier chapitre, après un premier chapitre sur les rencontres avec le poil, il y en a quatre autres qui ça développent chacun de ces critères ou axes de différenciation. Donc le premier chapitre, il s'intéresse à la manière dont... Le premier point, c'est les différentes manières de traiter les poils servent d'abord à souligner les différences de genre. Et j'en dis pas plus, je reviendrai en détail après. Ensuite, les différentes manières d'arranger les poils servent à marquer les différences de statut social, classe ou ethnie. Ça, c'est le deuxième. D'autrement dit, la division sociale du travail s'exprime dans les poils, à la fois à l'échelle d'une société ou à l'échelle d'un groupe. Et là, je prends l'exemple des clercs au Moyen-Âge, où donc ils se caractérisent par la tonsure et le rasage, ce qui les différencie d'autres groupes professionnels de l'époque. Leur position dans la société, leur travail, c'est de prier. Il y en a qui font la guerre, d'autres qui commercent, etc. Donc eux, voilà, leur place dans la division du travail se remarque à la tonsure et le rasage qui distinguent les autres. Et en plus, au sein même de l'Église, selon la position dans les hiérarchies ecclésiales, la taille de la tonsure n'est pas la même. Quand on commence novice, elle est plus courte. Enfin, vous donnez les détails exacts, et en fait, plus on augmente et plus elle grandit. Et vous citez encore plein d'autres exemples où voilà, vraiment la stratification sociale se marque parfois de manière extrêmement codifiée dans les poils et les cheveux. Et pour ce qui est de l'ethnie, vous prenez un exemple assez frappant, qui est celui des femmes d'origine européenne au Mexique, alors je ne me rappelle plus à quelle époque exactement, mais qui, contrairement à ce qui est d'ordinaire prescrit pour les femmes, se laissent pousser les poils corporels, et ce pour accentuer leur différence avec les femmes autochtones, qui en sont naturellement moins connues, et qui leur sont à la fois subalternes en division du travail, et construites comme racialement autres. Et donc là, la différence ethnico-sociale l'emporte sur la différence de genre, si on peut dire. Le troisième critère que vous identifiez, ce sont les différences entre, je vous cite, l'ordre du monde et ses marges. Vous entendez par là le fait que ce soit volontairement par la contrainte, les exclus, les marginaux, et plus généralement ceux qui se retirent du monde, se démarquent ou sont démarqués par des styles pileux contrastants avec les normes. Par exemple, prisonnier et bagnard, punk, moine bouddhiste ou catholique présentent un crâne tondu, alors que les ermites, les chamans, les hippies arborent ou arboraient au contraire les chevalements. Enfin, pour prendre juste quelques exemples.
Alors pour les chamans, c'est vrai pour l'Extrême-Orient, ça n'est pas vrai pour l'Amérique du Sud.
Oui. Oui, qui sont plutôt tricophobes, si je m'en rappelle.
Oui, qui sont plutôt tricophobes, oui.
Donc voilà pour donc la thèse générale du livre, qui était on ne peut pas faire trouver un lexique universel du poil, mais en revanche, on peut repérer des espèces d'axes de différenciation que, à chaque fois, les poils vont signifier, mais de manière différente et propre à chaque société. Alors, quels sont les apports que donc, ce livre avec cette thèse amène. Le premier rapport, c'est que pour qui s'intéresse au poil, ce livre constitue une somme érudite qui est très utile, clairement. Et d'autant plus utile que la recherche francophone ne croule pas exactement sous les travaux sur la pilosité. Deuxième point, sans doute ce déficit relatif de travaux sur le poil tient au fait que, comme vous l'écrivez en conclusion, scruter une société par ses recoins pileux peut paraître a priori bien futile. Et donc le second intérêt de votre livre, c'est qu'il montre bien que ce n'est pas le cas, que le poil n'est pas un objet futile, car à travers les quatre critères que vous identifiez, au fond, ce que montre votre ethnotricologie, et si je peux me permettre de le reformuler ainsi, c'est que les différences pileuses expriment les structures fondamentales d'une société, de son organisation et de ses inégalités, que ce soit le genre, la classe, la race, l'opposition profane-sacrée, l'opposition insider-outsider, j'ai mis ça pour résumer tout un ensemble d'autres oppositions, ou encore des oppositions politiques comme contestataire-conservateur. Donc à chaque fois de manière différente et unique, mais toujours en fait, les poils et les différentes manières d'arranger les poils viennent exprimer, manifester en fait, bah, les structures fondamentales, les plus élémentaires, on va dire, d'une société de rue. Un troisième intérêt qui en découle directement, c'est que par là, vous arrachez définitivement le poil à la nature. Donc, le poil est profondément social. Bon, ça paraît peut-être une évidence dans un séminaire de sciences sociales du corps, mais je me disais que ça pouvait, ça fait pas de mal de le rappeler. Bref, voilà la très très grande, l'immense variété des usages que vous décrivez tout au long du livre, en fonction des lieux et des époques, des sociétés, etc., interdit d'y voir un quelconque déterminisme biologique, à moins de considérer que les populations entières soient les erreurs de la nature, mais je ne crois pas que ce soit la position ici. Et enfin, le quatrième intérêt de votre livre, c'est qu'il vient en quelque sorte, et alors là, Dominique, vous n'allez pas être d'accord, il vient en quelque sorte mettre un terme à un débat qui a duré plusieurs décennies, et qui était justement le fait de chercher à identifier quelle était la signification du poil. Parce que, voilà, depuis près d'un siècle, quelques psychanalystes, anthropologues et sociologues ont débattu pour savoir quel était le sens du poil. Et donc c'est là, pas mal de références, c'est celle que je cite ici. Donc, à la suite de Freud et de Jung, on a Charles Berg et puis Edward Leach qui ont soutenu dans les années 50 une équation poil égale puissance sexuelle, et donc couper le poil égale renonciation à la sexualité. Ce qui trouve effectivement pas mal de confirmations, mais en fait aussi beaucoup d'infirmations. À leur suite, Christopher Alpike d'un côté et Anthony Sinnott de l'autre ont critiqué ces formules réductrices pour proposer des règles un peu plus générales. Pour le premier, le fait de couper les poils est associé au contrôle social, et pas seulement au contrôle sexuel. Et le second va formuler deux règles un peu plus générales, mais qui restent des règles. La première, c'est que les sexes opposés présentent des styles pileux opposés. Et la deuxième, c'est que des idéologies opposées présentent des styles pileux opposés. Donc pour reprendre ces termes, c'est celui qu'on retrouve dans le titre de l'article, en matière de genre ou de politique, ce qui fait la gloire d'un autre fait la honte de l'autre. Et bref, après plusieurs décennies à couper les cheveux en quatre, si je peux me permettre ce petit jeu de mots, vous montrez que l'on ne peut identifier de telles règles générales, et qu'en fait chacune d'entre elles se heurte à d'autres cas, des sociétés. Voilà. Et donc Christopher Olsen Moore, dont je vous recommande la lecture, vous parliez d'historien, il a écrit en 2016 un livre qui est en fait une histoire de la barbe, mais qui donc reprend vraiment un plan chronologique et fait vraiment époque les unes après les autres, en partant d'Alexandre le Grand jusqu'à nos jours. Donc en allant rapidement sur les premières périodes, mais à partir du XVIe siècle, il y a un chapitre par siècle, et je le trouve vraiment très 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 utile et très très bon. Et bon, dans une autre publication, il résume ainsi l'apport de Christian Bonberger à ce travail, en l'écrivant ainsi, « La quête d'une théorie universelle s'est dissoute dans la soupe de la complexité culturelle. » Bon. Et voilà, pour être raccord quand même, pour finir, et pour être raccord avec le titre de la séance, qui était « Le poil est-il genré ?», je vais détailler un peu plus le chapitre 2, qui est lui-même sobrement intitulé « Genre au pluriel ». Donc votre réponse à cette question, elle est claire, bien sûr que le poil est genré. Et c'est peut-être d'ailleurs un des critères les plus importants. C'est en tout cas ce que suggère, ou c'est comme ça que j'interprète la position de ce chapitre dans le livre, puisque c'est le premier des différents critères que vous étudiez. Alors, le caractère genré du poil, il s'exprime avant tout par une opposition qui reste largement structurante dans nos sociétés, l'opposition entre le dru masculin et le lys féminin. Et vous confirmez sur ce point ce qu'Anthony Sinnott avait écrit et que j'évoquais juste avant. Cela étant dit, les différences entre les sexes ne sont pas signifiées seulement par cette opposition entre dru et lys, mais par une autre série d'oppositions, et en particulier entre le court masculin et le long féminin, au niveau des cheveux, et entre le visible masculin et le caché féminin. Et donc cette série d'oppositions est particulièrement sensible dans les prescriptions des trois religions du livre, les trois monothéismes, et qui insistent toutes sur le fait qu'hommes et femmes doivent se distinguer par leur poil et leurs cheveux, et par là respecter l'ordre naturel et divin. Il peut être bon de rappeler ici, avec Priscille Touraille, dont j'ai mis la référence dans la bibliographie, que le dimorphisme sexuel en matière de pilosité n'est pas une caractéristique universelle du genre humain, loin de là. Puisque de nombreuses populations, comme les autochtones du continent américain, mais aussi asiatiques, ne présentent presque pas, voire pas du tout, de différences en matière de pilosité, notamment faciale, entre hommes et femmes. Bref, je reviens donc à, au poil, au genre du poil.
Il n'y a que loin de là où je ne serais pas d'accord. Parce que oui, en effet, Priscilla Touré, il y a raison de... Mais loin de là, vous voyez, en Chine, ou bien dans le continent asiatique, il y a aussi cette différenciation, même si elle est moins marquée qu'en Europe.
Oui, oui, oui.
Donc c'est pour ça que le loin de là, bon, c'est vrai pour le monde amérindien, c'est vrai pour une partie d'Afrique aussi. Voilà. Mais ça n'est pas vrai de manière aussi générale que semble le signaler Priscilla de Touraille dans son article.
Oui, oui, oui. Mais non, c'est vrai. Mais en fait, disons qu'on a plutôt un espèce de continuum entre des différentes populations sur en fait, l'intensité du dimorphisme sexuel là-dessus. Avec autour de la Méditerranée, en fait, on en a assez. Oui. On n'en a pas tant que ça. Certes, les hommes sont très barbus, mais en fait, hommes et femmes sont très poilus sur le reste du corps. Avec en opposition à justement les autochtones du continent américain qui, eux et elles, sont en fait extrêmes. Enfin, les hommes n'ont quasi pas de pilosité faciale et quasi aucun poil.
Horreur d'ailleurs.
En Asie, il y a un petit peu de pilosité faciale, mais sur les. On n'a pas vraiment de différence au niveau de. Tu vois des poils sur le reste du corps. Enfin bref, donc. C'est aussi une réponse à. Ça vient remettre évidemment en fait en perspective un certain nombre de préconceptions qu'on peut avoir sur justement le caractère genré du poil ou la manière dont le genre va s'inscrire dans les poils, puisque typiquement, je crois pas qu'il y ait aucune différenciation genrée dans les populations autochtones, et pourtant ça ne va pas s'exprimer par le poil. Au contraire, on a des sociétés autour de la Méditerranée. C'est particulièrement. Mais en tout cas, c'est important de se rappeler que ce dimorphisme sexuel n'est pas une donnée universelle du genre.
Biologiquement, vous voulez dire, pas socialement.
Oui, biologiquement. D'accord. Oui, oui. Enfin, physiologiquement. Tous les êtres humains n'ont pas ça.
Pour vous aider, j'ai l'impression que ce que vous voulez dire, c'est ce que vous posez. Constamment combiné à une problématique de différenciation réciproque des groupes, soit intra-social, c'est-à-dire au sein d'une même société, soit des groupes continus. Il va être utilisé dans cette construction sociale différenciatrice réciproque.
Je parlais juste avant de. Parce que c'est l'un des exemples que vous développez longuement, c'est comment, à la fois dans le judaïsme, dans l'islam et dans la chrétienté, enfin, les textes sacrés en fait accordent une place très importante au poil et aux prescriptions pieuses, et que en fait dans chacun de ces cas-là on retrouve systématiquement cette espèce d'opposition, vraiment la prescription de la différence entre hommes et femmes, et en faisant appel à un ordre naturel divin. Dieu a mis des poils sur le visage des hommes et pas sur les femmes, donc l'homme doit porter fièrement ses poils sur le visage, etc., etc. Et cette idée qu'effectivement il y a la différence naturelle entre hommes et femmes, du point de vue notamment de la pilosité faciale, c'est une idée qui est bien ancrée chez nous. Et ça fait pas mal de se rappeler qu'en fait, il y a d'autres populations humaines qui font tout autant partie du genre humain, qui ne la présentent pas du tout. Voilà, ça c'était pour ça. Mais donc je reviens sur. Donc une fois ces fortes associations présentées, associations qui ne fonctionnent en fait vraiment, je dirais que pour. Peut-être pas que, mais en tout cas surtout pour le cas occidental. Les sociétés occidentales sont effectivement très marquées par cette série d'oppositions, mais déjà l'histoire même de l'Occident présente des variations autour de ces oppositions-là, et puis surtout vous citez aussi d'autres cas qui viennent le contredire frontalement. Donc on peut rappeler rapidement l'exemple des femmes d'origine espagnole au Mexique qui vont adopter le dru pour se différencier du lys des autochtones. Mais ce qui, effectivement, là, je vois ce que vous voulez dire, c'est pas une exception, c'est une vraie exception, puisque, en gros, c'est un autre critère vient supplanter un autre, mais ça...
C'est une logique qui vient lutter contre.
Mais par contre, on peut évoquer l'histoire de l'épilation en Occident, où, effectivement, le lys n'a pas été prescrit pour les femmes tout au long de l'histoire, au contraire. L'épilation n'a été d'usage pour les femmes qu'au cours d'une période du Moyen-Âge, puis à la Renaissance, pour ne revenir qu'au XXe siècle, Et d'ailleurs, ce retour relativement récent donc de l'épilation féminine corporelle et quasi intégrale s'accompagne du développement de l'épilation masculine. Ce qui, donc certes moins vite et moins unanimement, mais tout de même. Et signalant par là, donc je vous cite, une forme de neutralisation des différences pileuses entre les genres. Donc, ce truc de l'épilation qui revient au XXe siècle, c'est intéressant de le formuler comme ça, parce que certes, les femmes le font plus, et c'est vachement beaucoup plus une injonction pour les femmes, mais en fait, si on prend une perspective un peu plus large, on voit le phénomène revenir et pour les deux sexes. Ce qui, du coup, en fait, ferait qu'on aurait un basculement de la société entière vers le lisse, et pas seulement, en fait, hommes et femmes vers le lisse. Enfin, femmes lisses et hommes nus. Mais sinon, il y a un autre cas que je trouve particulièrement marquant, où ce n'est pas seulement une moindre différence, mais la ressemblance qui est valorisée. Et c'est ce que vous dites en vous appuyant sur les travaux de Afsaneh Najmabadi, et en vous appuyant sur l'idéal de beauté de l'Iran d'époque Qajar au XIXe siècle. Et je vous cite, « La beauté masculine, la beauté féminine étaient alors indifférenciées. L'idéal esthétique et érotique était l'adolescent, dont la lèvre supérieure était couverte d'un fin duvet. Et jusque dans les années 1920, les femmes conservaient ce fin duvet. » Et vous mettez en illustration dans le livre, la même illustration qui est la couverture du livre de Najmabadi, et où on voit en fait deux amants, et comme vous le dites, il est quasi impossible de... En fait, oui, qui est l'homme et qui est la femme sur l'image. Bon, et s'il n'y a pas de règle universelle qui vaille, vous tentez tout de même de caractériser la configuration pileuse de nos sociétés. Ce qui fait qu'on peut quand même établir un langage, mais pour une société donnée. Ce que vous dites, c'est, enfin, voilà, c'est la thèse de votre thèse de Alexandre Berger, c'est qu'il n'y a aucun système qui va valoir en tout temps et en tout lieu. Par contre, il y a clairement des règles, des régularités assez fortes, et avec parfois une permanence assez longue, mais pour une unité, pour une formation sociale donnée, on va dire. Et donc pour les sociétés contemporaines, vous rattachez, vous l'expliquez, vous le faites, donc, pour caractériser cette configuration pileuse en la rattachant à deux grands processus sociaux, celui d'individualisation d'une part, et celui de civilisation d'autre part. Vous écrivez en effet que les temps contemporains sont marqués par une logique optionnelle qui semble prévaloir sur une logique normative, et par un processus de désanimalisation, de désodorisation des corps. Et si j'ai bien compris, c'est comme ça que vous expliquez les prises de distance contemporaines avec les oppositions structurantes des sociétés occidentales, donc avec une prédominance du lisse à la fois pour les hommes et pour les femmes, et aussi, chez les femmes, un raccourcissement des couples. Où en fait, historiquement, là, sur la période récente, on remarque que les femmes tendent à avoir les cheveux plus courts qu'avant. Et donc, on aurait un rapprochement des femmes sur les cheveux, un rapprochement des hommes vers les femmes sur la question du poil, donc une relative neutralisation de la différence, qui tient, en fait, vous dites, donc moins à des choses proprement genrées que... en fait, le processus de civilisation, de domestication, de retrait de tout ce qui relève de refoulement de tout ce qui relève de la nature. Et pour vous, donc, le retour de la barbe depuis une petite décennie n'est pas vraiment un signe d'affaiblissement de cette tendance, dans la mesure où ces barbes restent très disciplinées et où ça ne s'accompagne pas d'un recul de l'épilation corporelle. Et bref, donc pour conclure, ce qui apparaît donc, c'est que le poil fait le genre et se multiplie de façon, à chaque fois dans des configurations historiques et sociales particulières. Et je dois bien avouer que je suis assez partisan de cette thèse-là. Je crois que j'ai déjà un petit peu dépassé, donc je garderai mes questions s'il y a le temps pour dans la discussion, si on peut enchaîner.
Oui, juste un truc à propos des livres qui passent, en tout cas celui-là, c'est que regardez les illustrations, elles sont très parlantes.